Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Madame Véronique Yvon. Bonjour, Madame Yvon.
Bonjour.
Vous êtes députée de Joliette à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti québécois. Vous êtes députée de Joliette déjà depuis 14 ans. Vous avez accompli beaucoup, mais on retiendra de votre contribution au domaine public l'aide médicale à mourir que vous avez parrainée, que vous avez poussée, que vous avez, je dirais, vendue dans le bon sens du terme, parce que ce n'était pas une œuvre qui était facile à faire accepter d'une façon sociétale au tout début. Et maintenant, 6 ans plus tard, c'est comme normal d'en parler. Et ce n'est plus la même controverse que c'était au tout début. Peut-être d'abord nous ramener en arrière, puis nous parler un peu de comment c'est arrivé, comment vous êtes pris en collaboration avec vos collègues de faire de l'aide médicale à mourir quelque chose qui est maintenant partie de la société.
Oui, en fait, c'était à l'automne 2009. Ça faisait un peu moins d'un an que j'étais députée. C'est un enjeu qui m'avait toujours habité, d'aussi loin que je me rappelle de mes études en droit. Il y avait eu pendant mes études en droit le jugement de Sous-Rodriguez où la Cour suprême avait décidé de ne pas ouvrir la porte. À l'époque, eux autres, ils parlaient de suicide assisté. Et puis, toutes ces questions-là d'éthique médicale, de consentement, de dignité de la personne, ça m'a toujours suivie. Puis, à l'automne 2009, il y a eu un cri du cœur d'un citoyen de Québec aux prises avec une forme grave là, de sclérose latérale, un peu un genre de SLA. Et le Collège des médecins s'était aussi positionné pour dire que des médecins pouvaient se retrouver vraiment dans des situations difficiles, dans des situations où ils n'arrivaient pas à soulager leurs patients. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai proposé de mettre en place une commission transpartisane. On en avait discuté avec les autres partis et donc j'étais pas mal assurée que quand je la déposerais, il y aurait un consentement unanime. Et c'est à partir de là, on a travaillé tous les partis ensemble, mais deuxième ingrédient vraiment important, en impliquant la population, en impliquant les gens, les citoyens, les experts et les groupes qui représentent les citoyens de tous horizons. On s'était promené un peu partout au Québec pour tirer le plus large consensus possible. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux recommandations et que par la suite, moi, quand j'ai été ministre, j'ai mis en œuvre les recommandations avec un projet de loi.
Il y a une expression en anglais qui dit « The devil is in the details
Oui.
», ce qui veut dire qu'il peut y avoir un consensus sur une idée large, qui ce soit juste pour la société, d'aider des personnes qui n'ont pas d'autre issue devant elles, de mourir d'une façon digne. Mais là, après ça, il faut baliser, il y a des questions éthiques, il y a des questions légales, et c'est là que ça se complexifie.
Oui, exactement. La chance que j'ai eue, c'est ça, c'est que ce rapport-là, on l'a déposé en 2011 et moi, je suis devenue députée à l'automne 2012, je suis devenue ministre à l'automne 2012 des services sociaux et Mme Marois m'avait confié spécifiquement le suivi du dossier Mourir dans la dignité de l'aide médicale à mourir et des soins palliatifs. Alors, je vous dirais que j'y ai travaillé là, de mon arrivée au ministère à l'automne 2012 jusqu'au début au dépôt du projet de loi en juin. Donc, presque un an de travail pour vraiment arriver au meilleur équilibre possible, au meilleur encadrement possible, pour protéger les personnes vulnérables, mais pour permettre cette liberté de choix-là, quand il y avait des souffrances, quand il y avait un déclin avancé irréversible et bien sûr une maladie grave et incurable. Et donc, par la suite, on s'est encore donné tout l'automne, on a fait des consultations à nouveau là, sur la base d'un projet de loi bien défini. On a étudié article par article, puis finalement, il va être adopté là, pendant l'année 2014.
Maintenant, si on revient aujourd'hui.
Oui.
La session parlementaire qui vient tout juste de se terminer, il y avait le projet de loi 38 qui visait à modifier, à élargir l'aide médicale à mourir parce qu'on voulait inclure d'autres types de situations, des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, par exemple. Alors là, ça ramène tout un questionnement. Malheureusement, la session s'est terminée. En disant, pas tout de suite, mais bientôt. Comment est-ce que vous voyez la suite des choses? Parce que vous-même, vous allez vous retirer de la vie politique, mais vous allez certainement rester intéressé au dossier.
Ah, ça, c'est sûr. Écoutez, on espérait vraiment pouvoir y arriver. On a fait une autre commission dans la dernière année transpartisane sur la question spécifique des personnes atteintes de maladies neurocognitives, comme l'Alzheimer, comme vous le dites si bien, d'autres formes de démence, qui fait en sorte que des personnes perdent leurs facultés cognitives et deviennent inaptes. Et l'idée, c'était de prévoir un mécanisme par lequel quelqu'un pourrait faire une demande après avoir eu un diagnostic, pendant qu'il est toujours apte à le faire, en prévision d'un moment où il souffrirait, où vraiment il ne voudrait plus vivre, mais il ne serait plus apte. Et c'est extrêmement complexe et comme vous le dites si bien, le diable est dans les détails et c'était une chose d'avoir les recommandations de notre rapport en décembre, mais quand le ministre a déposé le projet de loi le 25 mai, on était à 2 semaines tout juste de la fin de la session, donc on a essayé de faire le maximum pour y arriver, mais il y avait encore des enjeux d'avoir les bonnes orientations, le bon encadrement, que ce soit le plus clair possible, de s'assurer que les idées que l'on souhaite voir être mises en application vont vraiment passer le test du réel, qu'il va y avoir autant des médecins, des infirmières pour les appliquer que des gens qui vont être à l'aise de sentir que leur proche peut faire une telle demande. Donc, il y a eu beaucoup de travail. On en a fait beaucoup là pendant la dernière semaine, intensément, en études détaillées. J'ai le sentiment que le projet de loi est vraiment beaucoup meilleur avec tous les amendements qu'on a réussi à faire adopter et à modifier. Mais malheureusement, le temps nous a manqué là, cruellement. Exact. Il restait beaucoup trop d'articles à étudier. Et moi, j'ai juste envie de dire aux gens qui attendent cette avancée-là, parce que je sais que c'est le cas, je donne beaucoup de conférences et c'est là la question qui revient toujours, que je suis confiante qu'on va y arriver parce que tous les partis se sont engagés à ramener un projet de loi l'année prochaine, qu'importe qui sera au pouvoir.
Quelle que soit la composition de l'Assemblée nationale, les gens qui vont y siéger, toute allégeance confondue, se sont engagés à reprendre un dialogue non partisan pour que ça aboutisse. Mais il faut quand même comprendre que dans un processus législatif puis une mise en place, on parle pas de semaines, là, on parle de plusieurs mois quand même entre une adoption et une mise en place. Là, ça se fera pas 1er janvier 23.
Ouais, ça c'est l'autre enjeu. Nous, il y avait eu 18 mois entre l'adoption de la première loi et sa mise en vigueur. Pourquoi? Parce qu'il faut que le terrain soit prêt à accueillir cette nouvelle réalité. Dans ce cas-ci, le ministre Dubé, puisque c'est lui là, qui parrainait le projet de loi, allait aussi dans le même horizon d'environ 18 mois. L'idée étant de pouvoir avoir les formulaires qui soient bien préparés, bien adaptés, que les médecins soient formés, qu'il y ait les guides de pratique qui soient faits, les protocoles. Donc, il y a quand même une complexité. Puis on veut pas que ça se mette en branle et qu'on perde, je dirais, le consensus et que les gens se disent que ça passe pas le test du réel. Donc, c'est très important que toutes ces étapes-là soient franchies. Mais si ça peut donner espoir aux gens, moi je pense, puis le ministre aussi était du même avis, que les mois que l'on perd en quelque sorte parce que le projet de loi n'est pas adopté, ça va probablement permettre de raccourcir le délai d'implantation de la loi une fois qu'elle va être votée, parce que là, le signal est envoyé très clairement aux fonctionnaires, au collège des médecins, aux gens sur le terrain, de tout de suite commencer à se préparer, à préparer les protocoles, à voir comment ça va tout ça s'articuler concrètement à la lumière là, du projet de loi puis des bonifications qu'on a apportées. Donc, par exemple, si on prévoyait un 18 mois avant de pouvoir entrer en vigueur, peut-être que ça va être juste un 12 mois. Donc, je pense que ces mois-là ne seront pas nécessairement perdus.
Ça ne devient pas une question de si, ça devient une question de quand. Alors, c'est toutes les, oui. Toutes les parties impliquées savent que ça va de toute manière survenir avec une approximation raisonnable sous quelle forme. Tout le monde est capable de se préparer un peu en conséquence. Quand l'aide, j'ai avancé quelque chose, s'il vous plaît, arrêtez-moi si je me trompe, mais quand au Québec, l'aide médicale à mourir mise de l'avant il y a déjà plusieurs années, le reste du Canada était un peu à la remorque, si je peux dire. Depuis ce temps-là, il y a eu des législations qui ont été promulguées à d'autres niveaux, donc au gouvernement fédéral, entre autres. Est-ce que maintenant le Québec est devant toujours la parade ou un peu derrière ou à côté? Le fait du manque d'uniformité peut-être créer aussi un flou?
Oui, je dirais qu'il y a un mélange, c'est-à-dire que malheureusement, le gouvernement canadien n'a pas agi de manière proactive. Eux, ils ont attendu les décisions des tribunaux. Alors, c'est à la suite d'un jugement de la Cour suprême qui est venu renverser le fameux jugement dont je vous parlais quand
Oui.
j'étais à l'université et qui a donc permis, pendant que nous, au Québec, la loi allait entrer en vigueur, il y a eu ce jugement-là. Il n'y a pas eu un si grand retard entre le Canada et le Québec, mais c'est quand même venu plus tard que le Québec, parce que nous, on avait pris les devants. Et ce qui est fantastique, c'est que le jugement s'est inspiré beaucoup, beaucoup de la loi québécoise en termes d'encadrement. Mais un jugement étant un jugement, ça ne rentre pas dans tous les détails d'une loi.
Exact.
Et donc, le code criminel a été amendé. Et puis, à certains égards, ils n'ont pas fait nécessairement les mêmes nuances sur la maladie grave et incurable. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux débat sur, je dirais, est-ce que le Québec est en avance ou en retard. Sur la question de la demande anticipée pour les maladies neurocognitives, on est clairement en avance. Le débat n'est pas vraiment amorcé comme tel au fédéral. Il y a une sénatrice là qui en parle, mais c'est pas un enjeu qui est vraiment sur leur radar, là, je dirais, pour la majorité. Donc ça, on est vraiment encore une fois précurseur. L'endroit où il y a une différence, c'est sur la question du handicap. Et c'est une question qui est importante. Au fédéral, puisqu'ils n'ont pas vraiment fait le débat comme on l'a fait au Québec, ils ont plutôt appliqué le jugement. Ils voulaient être sûrs de ne pas se faire dire qu'ils n'allaient pas assez loin ou tout ça. Ils ont inclus le handicap.
D'accord.
Comme pouvant permettre l'ouverture, alors qu'au Québec, ce qu'on demande, c'est de faire le débat avec les associations, avec les personnes qui vivent avec un handicap, pour vraiment entendre les principaux concernés avant de déterminer si c'est la bonne orientation à prendre.
Alors, peut-être que notre façon de faire, qui est plus consensuelle, va au bout du compte, donner un résultat qui va être plus facilement applicable, parce qu'on aura entendu toutes les parties avant d'aller de l'avant. Qu'est-ce que vous allez faire, Mme Yvon? Tout le monde doit vous poser la question maintenant.
Bien, je vais... D'abord, je suis députée jusqu'au 3 octobre encore.
Oui, c'est
donc,
juste.
Donc, je vais continuer. Là, j'ai terminé l'Assemblée nationale la semaine dernière. J'ai vidé mon bureau. Et là, c'est sûr que je m'occupe là, de dossiers locaux à Joliette que j'espère voir aboutir là, certains dossiers qui ne sont pas encore finalisés avant que je quitte la politique. Je rencontre beaucoup de gens encore, beaucoup d'organismes, tout ça, pour attacher tout ça. Et bien, je me donne du temps. Je me donne quelques mois pour vraiment décider ce que je vais accepter potentiellement comme offre ou les projets que j'avais un peu en tête. Donc, ce qui est certain, c'est que je veux rester vraiment utile socialement, donc continuer à faire une différence, mais en ayant peut-être un peu plus de temps pour la réflexion, un mélange plus équilibré entre la réflexion et l'action, pas toujours être dans action-réaction à tous les jours. J'ai vécu passionnément mes 14 années, j'ai adoré chaque minute de mon engagement politique. Là, j'ai juste le goût de faire un petit pas de côté pour c'est ça, avoir des projets qui vont permettre d'aller un petit peu plus en profondeur sur certains enjeux. Et puis, c'est comme ça que je vois mon nouveau rôle, mais je ne peux pas vous dire exactement de quelle manière, dans quel créneau, parce que je me donne encore du temps pour décanter tout ça.
Vous pourrez réfléchir, mais je suis sûr qu'on va entendre parler de vous et qu'il y aura un aspect, je dirais, caritatif ou humain dans ce que vous allez faire, parce que vous ne pouvez pas être une personne très différente de celle qui a œuvré comme elle l'a fait depuis 14 ans. Surtout, on se souviendra toujours de M. Castonguay avec l'assurance maladie, mais je pense que l'idée sociétale de l'aide médicale à mourir et de ce que ça représente va toujours être associée à votre nom. Alors, on va encore vous en parler souvent, puis on va encore vous demander votre opinion. Je vous souhaite un bel été,
merci beaucoup,
un bel automne, Mme Yvon. Merci d'avoir été là.
Au revoir, ça a été un plaisir.
Merci.
Au revoir.